le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans ce service protestant sur France Culture. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous recevons le pasteur Bernard Sauvagnat de l'église adventiste, membre de la commission œcuménique de la Fédération protestante de France.
En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je vous invite, chers auditeurs, à vous associer au thème qui a été choisi par nos frères, les chrétiens des Caraïbes, pour cette année 2018. Eux qui ont vécu des périodes terribles dans leur histoire qui sont liées à l'esclavage, ils ont choisi cette phrase tirée du livre de l'Exode « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ». Cette phrase fait en fait partie du chant qui a été interprété par les esclaves hébreux qui venaient de traverser la mer Rouge, grâce à laquelle ils avaient été sauvés des armées égyptiennes qui les poursuivaient. Et on comprend que ils aient, ces chrétiens des Caraïbes, attiré notre attention sur ce Dieu qui est libérateur. C'est vrai que nous ne connaissons pas directement l'esclavage, nous qui vivons ici en France. Mais nous avons bien des occasions de nous rappeler notre faiblesse. Et ce rappel nous fait parfois nous reposer, nous retourner sur nous-mêmes, nous refermer sur nous-mêmes. Et nous avons donc besoin de prendre conscience que notre foi est une source de force, une force qui ne vient pas de nous, mais qui vient de Dieu. Nous avons besoin de cette force pour vivre en étant attentifs aux besoins les uns des autres. Nous avons besoin de cette force pour vivre la fraternité. Nous avons besoin de cette force pour construire l'unité entre nous. Et donc, c'est une occasion aujourd'hui de rechercher cette force qui vient de Dieu. Nous avons aussi besoin de louanges, ou je dirais peut-être de gratitude, car nous ne sommes pas seuls. Il y a autour de nous des personnes qui nous aiment et qui nous aident. Et dire et redire notre gratitude, notre reconnaissance, savoir exprimer ce merci pour les actes de bonté dont nous bénéficions est certainement quelque chose d'important et de constructif pour nos vies. Et nous avons bien sûr besoin de nous rappeler que Dieu est libérateur. Et je vous invite, avant d'ouvrir la Bible ensemble, de pouvoir nous tourner vers ce Dieu dans la prière. Seigneur Dieu, notre Père, toi qui es le Créateur, mais toi qui es aussi notre Libérateur, nous voulons humblement nous tourner vers toi, d'abord pour te demander pardon, pardon pour nos indifférences, pardon pour nos attitudes parfois méprisantes, voire hostiles les uns envers les autres. Nous te demandons de nous aider à être attentifs et à construire des relations fraternelles. Nous voulons te remercier parce que tu as été le libérateur de bien des personnes dans notre histoire. Bien sûr, c'est toi qui as libéré ce peuple d'esclaves hébreux en Égypte il y a de nombreux siècles, et dont le livre de l'Exode nous raconte les péripéties. Nous voulons aussi nous souvenir que tu as libéré bien des personnes par le Seigneur Jésus lorsqu'il était sur cette terre. Libéré des gens de la maladie, de l'infirmité, du mépris, du rejet, de la condamnation et même de la mort. Alors nous voulons te louer pour ces libérations. Mais en même temps, nous voulons rester conscients que c'est toi qui nous libères aujourd'hui de toutes nos misères, de nos trahisons, de nos culpabilités, et nous voulons te louer pour cela. Sois glorifié, toi notre libérateur, et cette prière nous te l'adressons au nom de Jésus, le Christ. Amen. Puisque ceux qui nous font réfléchir en cette semaine sont des personnes originaires des Caraïbes, alors j'ai choisi de vous faire écouter une musique qui est interprétée par des personnes qui viennent de cette région du monde. Il s'agit d'un groupe originaire des Antilles françaises qui s'appelle The Gospel Sharers. Ils sont dirigés par le pasteur Hébert Valliamé et ils vont nous interpréter un classique du gospel, « Jesus, I'll never forget ».
Jesus, I'll never forget
what you've done for me. Jesus, I'll never forget how you've set me free. Jesus, I'll never forget how you brought me out. Jesus, I'll never forget, no, never.
Jesus, I'll never forget
what you've done for me.
Jesus, I'll never forget
how you've set me free.
Jesus, I'll never forget
how you brought me out. Jesus, I'll never forget, no, never.
How can I forget
what you've done for me?
Well.
How can I forget how you set me free? How can I forget how you brought me out? How can I forget, no, never?
He's done so much for me. Jesus, I'll never forget
what you've done for me.
Jesus, I'll never forget
how you set me free. Jesus, I'll never forget how you brought me out. Jesus, I'll never forget. No,
je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible dans le livre de Daniel, au chapitre 3, dont nous lirons les versets 14 à 18. Et je vais faire cette lecture dans la traduction œcuménique de la Bible. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit « Est-il exact, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Est-ce que maintenant vous êtes prêts au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la sitar, de la harpe, du luth, de la cornemuse et de tous les genres d'instruments, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, au moment même, vous serez jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego prirent la parole et dirent « Ô roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre quoi que ce soit à ce sujet. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, qu'il nous délivre de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Nous sommes là devant un extrait de cette fameuse histoire de la fournaise ardente. Le texte nous met devant une confrontation. D'un côté, il y a le grand empereur Nabuchodonosor, celui qui est censé être le fondateur de l'empire néo-babylonien au début du VIe siècle avant notre ère. Ce personnage est très puissant, il a fait d'énormes conquêtes, et parmi ces conquêtes, il a, entre autres, conquis le petit territoire de Judée et déporté quelques nobles jeunes gens de cette population. Ce roi a des croyances polythéistes, et il a en tête d'organiser une grande cérémonie religieuse pour honorer une statue d'or qu'il a fait dresser. De l'autre côté, il y a trois jeunes gens qui sont des juifs déportés depuis Jérusalem et à Babylone. Ces jeunes gens ont été formés pour pouvoir exercer des fonctions dans l'administration de l'Empire. Mais eux sont des croyants monothéistes et évidemment la confrontation va se faire sur un plan religieux. L'incompatibilité entre le polythéisme et le monothéisme va se révéler, mais aussi le refus de l'idolâtrie va être un des enjeux essentiels de cette confrontation. Il y a dans cette histoire quantité de choses qui sont racontées d'une façon surprenante pour le lecteur contemporain, surtout occidental. En fait, il y a de très nombreuses répétitions dans ce texte. Par exemple, on va nous dire à 12 reprises que cet empereur Nabucodonosor, d'ailleurs vous me permettrez de l'appeler Nabucco, c'est bien ce qu'a fait Giuseppe Verdi bien avant moi. Nabucco, il a fait dresser une statue. Et cette statue, elle est mentionnée à 10 reprises. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la fournaise dans laquelle il a l'intention de punir ceux qui seraient récalcitrants à sa cérémonie idolâtre, cette fournaise-là, elle est mentionnée à 12 reprises dans le texte. Et on se demande, mais pourquoi une telle insistance ? On a aussi dans ce texte d'autres répétitions. Par exemple, pour cette cérémonie qu'il organise, l'empereur Nabucco a l'intention de rassembler tous les hauts fonctionnaires de son royaume. Et ces hauts fonctionnaires sont mentionnés à 3 reprises dans des listes qui comprennent 8 dignités ou 8 fonctions différentes. Il y a les satrapes, il y a les intendants, il y a les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les légistes, les magistrats et enfin tous les fonctionnaires provinciaux. Une telle insistance donne de l'importance à l'autorité de ce monarque. On y trouve encore une autre liste qui est impressionnante et que vous avez entendue tout à l'heure dans la lecture. C'est celle d'une série d'instruments de musique, il y en a 8 aussi en tout, qui doivent donner le signal du moment où tous les convoqués se prosternent devant la statue d'or. Et évidemment, tout cela rend presque ridicule la petite liste qui se trouve devant ces 3 jeunes juifs qui vont résister à l'empereur. Au moment où ils vont être jetés dans le feu parce qu'ils ont refusé d'obéir à l'ordre royal, on nous dit qu'ils ont été ligotés avec leurs pantalons, leurs tuniques, leurs bonnets et leurs manteaux. Alors c'est vrai, la liste est déjà importante, 4 pièces de vêtements, mais personne n'imagine que ces vêtements vont pouvoir les protéger du feu. Ils sont tous réalisés dans des matériaux qui sont inflammables. Alors on pourrait souligner ainsi quantité de détails dans la manière de ce récit et raconter. Mais je voudrais attirer votre attention sur un aspect particulier. cet aspect concerne tous les mouvements qui sont décrits par le rédacteur de l'histoire. En effet, Nabucco ne bouge pas. Mais par contre, il fait bouger quantité d'objets, quantité de personnes. Tout commence par la statue d'or qu'il fait dresser. Et cette statue est imposante, elle mesure plus de 25 mètres de haut. On a donc là un premier mouvement qui est vertical. La statue va passer de la position horizontale à la position verticale. Et c'est vers le haut, il la fait dresser. Ensuite, ce roi envoie des messagers qui vont parcourir tout son empire pour réunir tous les fonctionnaires qu'il convoque. Il y a donc un mouvement qui est fait par ces messagers qui s'éloignent du roi pour se disperser dans toutes les provinces de l'Empire. Et c'est là ce qu'on pourrait appeler très simplement un mouvement horizontal centrifuge. Mais ce mouvement n'a pas pour but d'être définitif. Il s'agit de ramener tous les hauts fonctionnaires. Donc c'est le mouvement inverse qui veut être provoqué. Tous ces gens vont quitter les différentes provinces, les villes où ils exercent leurs responsabilités pour se rassembler auprès de ce roi et surtout devant sa statue. Ensuite, une fois qu'ils seront tous là, le roi donne un ordre qu'ils doivent exécuter au moment où tous les instruments de musique s'expriment. Et cet ordre consiste pour eux à se prosterner, c'est-à-dire à faire un mouvement vertical vers le bas. Le roi entend bien que ce mouvement soit perçu comme spontané. Ils sont là, ils veulent manifester leur vénération et pour l'empereur et pour la statue qu'il a dressée, et il espère bien que ce sera un mouvement volontaire de bonne collaboration avec lui. Mais pourtant, il envisage qu'il puisse y avoir des récalcitrants. Et cela, il prévoit bien de leur faire faire un autre mouvement vertical vers le bas. Il a l'intention de les « jeter », c'est le verbe qui est utilisé pour traduire l'expression qui donne cette menace. « Jeter dans le feu ». Alors, c'est intéressant de voir que, apparemment, dans cette histoire, tout se passe comme le roi l'a prévu. Sauf que, effectivement, des récalcitrants, il y en a. Et ce sont ces trois jeunes juifs qui ont bien accepté la convocation, qui sont venus à ce rassemblement, mais au moment où les instruments se sont mis à jouer, ils ont refusé de se prosterner. Et on les a vus, on les dénonce. Et d'ailleurs, la dénonciation est formulée d'une façon très particulière. On dit « ce sont les juifs ». Il y a déjà là une espèce de petite lueur de racisme. On leur reproche et leur ethnie et leur religion. Ces jeunes gens sont alors convoqués. Ils doivent faire de façon contrainte un mouvement vers ce roi. Toujours un mouvement horizontal, cette fois-ci centripète, pour venir vers ce personnage qui est au milieu de la scène et qui n'a toujours pas bougé. Et quand ils sont devant lui, alors il les menace une fois de plus. Il leur dit que l'ordre est renouvelé. En quelque sorte, on leur donne une seconde chance. Les instruments de musique vont répéter leur mélodie et ce sera le signe pour eux de se prosterner effectivement devant cette statue. Mais il n'y a pas que l'ordre qui est renouvelé. Il y a aussi la menace. Car si vous ne vous pliez pas à mon ordre, alors vous serez jetés. Et avec insistance, le texte dit « vous y serez jetés au moment même ». Et en plus, le roi précise que « on va chauffer cette fournaise 7 fois plus qu'accoutumé ». Plus chaud, tu meurs. Remarquez, moins chaud, tu meurs quand même. Et ces jeunes gens vont donc être confrontés à ce que tous ces mouvements nous disent. Il y a là un personnage qui se croit au centre du monde, un personnage qui l'a la prétention de détenir une autorité incontestable, suprême. Un personnage qui a même l'audace de jeter un défi verbal au dieu qu'il adore. Rappelez-vous, c'est un polythéiste. Il a tout un panthéon de dieux qui sont censés être à ses côtés. Mais si l'on comprend bien la petite phrase qu'il dit « Quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ?» il est en train de dire que les dieux sont à la périphérie et que c'est lui qui est au centre. Les dieux doivent lui obéir. Ils n'ont pas la compétence de délivrer des gens qui sont sous son contrôle. Voilà donc ce que tous ces mouvements essaient de nous faire comprendre. Et on se rend compte qu'il y a là presque une caricature d'un pouvoir absolu extrêmement prétentieux. D'ailleurs, si on se rappelle ce que ce même livre de Daniel raconte dans le chapitre précédent, ce même empereur, Nabucco, a eu un rêve. Il était tourmenté par les préoccupations sur la gestion de son empire et sur l'avenir. Et ce rêve, c'est ce qu'on a appelé habituellement le colosse au pied d'argile. C'est une statue qui est faite de différents métaux dont seule la tête est en or. Et on peut avoir l'impression que notre histoire, celle de la fournaise ardente, c'est un peu comme la prétention de ce monarque à ne pas être que la tête d'or que Daniel lui avait expliqué comme quelque chose qui le représentait lui et son royaume, mais il veut être toute la statue, représenter en fait toute l'humanité, toute la grandeur des hommes et toute l'histoire de l'humanité. Et en face de ce monarque aussi prétentieux, voilà que se trouvent ces trois jeunes gens dont on nous rappelle qu'avant d'être ligotés et jetés dans le feu, ils n'ont que leur tunique, leur manteau, leur bonnet et leur pantalon pour les couvrir. Et la réponse qu'ils donnent, lorsque le roi a réitéré son ordre et sa menace, est tout à fait remarquable. Premièrement, ce n'est pas à nous de répondre au roi sur ce que vont faire tes dieux, parce que nous, nous n'y croyons pas. Deuxièmement, notre Dieu est capable de nous délivrer. Peut-être que ça vous rappelle une petite chanson que vos enfants ont chantée lorsqu'ils allaient à l'école du dimanche. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Bon, je ne vais pas plus loin pour la chanson. Mais ils sont là avec cette foi en un Dieu qui a des compétences, mais à qui ils ne veulent pas donner d'ordre. Parce qu'ils disent, et ils ajoutent, c'est leur dernière remarque, « Même s'ils ne nous délivrent pas, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas ta statue. » Il y a là un acte tout à fait remarquable. Ces jeunes gens ne veulent pas céder à la menace et veulent rester proches de leurs convictions. Ils sont unis, ils tiennent tous le même langage, ils sont tous prêts à avoir le même comportement, à affronter et à subir le même sort. Leur Dieu n'est pas un libérateur sur commande. Leur Dieu est capable de décider lui-même quand et qui il délivre s'il estime qu'il doit délivrer. Il faut une grande humilité pour avoir une telle foi, et c'est ce qui tranche avec l'attitude de ce monarque. Finalement, ils vont être jetés. Mais alors, tout à coup, il se passe quelque chose. Le monarque bouge. Quelque chose s'est produit qui le fait bouger. Jusque-là, il était assis, il était au centre, totalement immobile. Voilà que maintenant, il se lève. Il se lève parce qu'il a vu quelque chose. Il se souvient avoir jeté trois personnes dans ce feu. Et il n'en croit pas ses yeux, il en voit quatre. Et ces quatre personnes, elles sont debout, elles marchent dans le feu et semblent complètement inatteignables par les flammes. Alors, n'en croyant pas ses yeux, il s'approche, il bouge encore. Et finalement, il les fait sortir parce que le quatrième personnage qu'il a vu lui semble ressembler à un fils des dieux. Et oui, les trois jeunes Hébreux ont été libérés. Et c'est le roi lui-même, le monarque si prétentieux, qui va proclamer ce que nos frères des Caraïbes nous ont proposé. C'est lui qui va dire « Votre Dieu est fort, votre Dieu mérite la louange, votre Dieu est un libérateur. » Alors, si nous croyons en ce Dieu de Jésus-Christ qui est capable de venir avec nous dans la fournaise de la planète que nous sommes en train de transformer en fournaise, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les offrandes spéciales qui sont recueillies dans les églises à l'occasion de cette semaine de prière pour l'unité sont destinées à ce qu'on appelle l'Église verte. Renseignez-vous sur ce projet. Église verte en un seul mot, .org vous donnera les clés. Ce Christ qui est prêt à venir avec nous dans notre planète, c'est celui de la libération. C'est celui qui est fort, c'est celui que nous pouvons louer et c'est celui que je vous invite à adorer en toute simplicité. Amen. Nous pouvons terminer en redisant ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Ainsi s'achève ce service protestant. Nous étions aujourd'hui avec le pasteur Bernard Sauvagnat de l'Église Adventiste et membre de la commission œcuménique de la Fédération protestante de France. Merci à Clotilde Pivin et à Claude Niort pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Vous pouvez retrouver cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org et recevoir le texte de cette émission par courrier, si vous le désirez, en écrivant au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Restez à l'écoute de France Culture, à suivre dans un instant le journal, puis retrouver Marc-Alain Wachnin pour Talmudic. Très bon dimanche à tous.